C'est bien la première fois que mes collègues se pressent pour me donner leur avis sur le sujet du jour. Depuis ce matin, dans les couloirs de France Inter, ça n'arrête pas. T'imagines un peu la téléportation? Je claque des doigts et paf, je suis dans mon lit. Oui, bon, les journalistes qui travaillent en matinale n'ont pas des rêves très romanesques. On a envie de leur répondre qu'avec la téléportation, tu peux surtout aller déjeuner en Patagonie ou boire un café face au Taj Mahal. Mais il manque de sommeil, que voulez-vous. La télépathie affiche aussi un joli succès. Pas mal de collègues voudraient communiquer sans avoir à se parler. C'est étonnant quand on travaille à la radio. Mais à ma grande surprise, personne n'a tellement envie de savoir voler. Et vous, quel super pouvoir choisiriez-vous ? Évidemment que cette question ne sert à rien, mais je vous propose qu'on s'abandonne au plaisir de l'inutile pendant une heure. Encore que ça n'est pas si sûr. Si les films de super-héros rencontrent toujours un tel succès au cinéma, c'est que les super-pouvoirs nous fascinent. Ils sont le révélateur de nos imperfections, ils racontent nos faiblesses et nos fêlures, ils dessinent en creux notre humanité. Ces personnages hors du commun séduisent aussi parce qu'ils apprennent à maîtriser leurs pouvoirs, à décider comment les utiliser surtout. Et ça leur donne du sens, ils apprennent à grandir en somme. Et qui oserait dire que ça ne concerne pas tout le monde? Quel est le meilleur des super-pouvoirs? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba. Sur France Inter.
Et c'est à eux que j'ai confié la lourde responsabilité de répondre à la question. Trois invités autour de cette table. Bonjour Pénélope Bagieux.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes auteure et dessinatrice de bandes dessinées. Je recommande vivement à ceux qui ne l'ont pas encore lu les deux tomes de Culotté chez Gallimard, réjouissante BD qui brosse le portrait de femmes hors du commun. Ce ne sont pas des super-héroïnes, hein, ces femmes culottées, mais elles ont un sacré pouvoir, Pénélope Bagieux.
C'est le contraire des super-héroïnes. Ouais. Elles sont nées avec un super non-pouvoir qui est des femmes. Ce qui fait qu'on a moins de super pouvoir encore.
Un exemple parmi de nombreux autres, hein, c'est la vulcanologue, qu'on présentait toujours comme la femme de Simon Kraft et qui était bien autre chose.
Katia Kraft, voilà. Ouais, qui elle aussi avait des assez bons pouvoirs, mais malheureusement elle est un peu dans l'ombre de son mari. Ouais.
Voilà, deuxième invitée, Anaïs Bordage, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter, vous êtes journaliste et l'une des fondatrices de BuzzFeed France, un site d'info qui s'intéresse de très près à la pop culture et donc au super pouvoir. Xavier Fournier est là également.
Bonjour.
Bonjour. Journaliste, écrivain, grand spécialiste des comics, auteur de nombreux livres sur ce sujet et notamment Super Héros, l'envers du costume. Alors on va entrer dans le détail bien sûr, hein, de chaque pouvoir, de chaque super héros. Mais d'abord je vous pose la question tout simplement à tous les trois. Quel pouvoir, quel super pouvoir choisiriez-vous, Xavier Fournier ?
Bah, tout est à affaire de contexte. Moi, je pense que l'époque est au pouvoir furtif et la télépathie, effectivement, a ses utilités. Mais l'invisibilité dans un monde aujourd'hui où on est fiché, où tout le monde nous surveille, je pense que c'est un pouvoir très moderne en ce moment, l'invisibilité.
Anaïs Bordage ?
Alors moi, en tant que grande hypochondriaque, je pense que si on me demandait de choisir un pouvoir, ce serait sans doute le pouvoir de guérison.
Ah oui.
ou carrément l'immortalité, hein, soyons fous.
On peut être ambitieux, hein, sur ce genre de sujet. Pénélope Bagieux.
Et ben moi, en tant que grande, tout le temps à la bourre, et je pense que j'aimerais bien contrôler le temps. J'ai quand même l'impression que si on peut l'arrêter quand on est en retard, l'accélérer quand on fait un truc un peu ennuyeux, on a un petit peu bouclé tous les problèmes des super-héros et de tous les problèmes d'un coup.
Donc moi, je vous sais gré d'être arrivé à l'heure à cette émission.
C'était Pénélope vraiment une belle performance.
Alors Théo Gomard, qui est à la technique aujourd'hui, à qui j'ai posé cette même question, me répondait, enfin ça dépend, c'est pourquoi le super-pouvoir, c'est pour soi-même ou pour sauver la planète? Il est là le vrai dilemme finalement. À quoi ça sert le super pouvoir, Xavier Fournier?
Ça dépend. D'abord, il faut différencier super héros, c'est-à-dire le justicier altruiste, du super pouvoir. Il y a plein de types qui ont des super pouvoirs qui ne sont pas très sympathiques. Ouais. Dracula, finalement, c'est un super pouvoir. Donc, c'est sûr que si on parle de super pouvoir en général, on parle d'une étendue de puissance, mais on parle pas forcément d'un mec qui met un masque, d'une Wonder Woman qui va aller s'occuper de toutes ses sœurs à travers l'humanité. Non, il y a la plupart des gens sans doute s'en servaient pour se téléporteraient pour faire plus vite leurs courses, je pense.
Voilà. Bah, d'ailleurs, Bénédicte, une auditrice, nous écrit ceci. Je suis beaucoup plus modeste. Moi, j'aimerais pouvoir ranger ma maison et faire à manger juste en remuant le nez. Évidemment que la sorcière bien aimée est une super héroïne, Pénélope Bagieux.
Oui, pourtant, elle en fait quand même pas grand-chose, elle, pour le coup. Hein. Mais bon.
Oui, elle range pas chez elle? Non.
Si, c'est ça, elle s'en sert pour faire des dîners à Jean-Pierre, quoi.
C'est ça, Anaïs Bordage.
Oui, bah, c'est un peu le super pouvoir de la flemme, quoi. C'est pouvoir attraper la télécommande par télékinésie sans se lever du canapé, ce genre de choses. Effectivement, c'est très sympa. Mais en dehors de l'espace de la maison, est-ce que c'est très utile? Je sais pas.
Voilà, avant de revenir en détail sur la télékinésie, avant de parler des pouvoirs de Spider-Man, de Batman, de Ant-Man, d'Iron Man, mais aussi de Catwoman et de Wonder Woman, on va écouter Happy Man sur Inter. Voici Jungle, il est midi 11. Bienvenue à tous. De soul londonien choisi par notre programmateur musical Jean-Baptiste Audibert. C'était Jungle sur France Inter. L'émission est préparée par Fanny Cohen-Moreau qui aimerait savoir parler toutes les langues, réalisée par Fabrice Laigle qui lui opterait pour le voyage dans le temps. Quant aux stagiaires Aurore Mansip, elle aimerait contrôler les émotions des gens et Samuel Evenot adorerait manipuler la mémoire de ses congénères. Une joyeuse bande de cinglés donc. Le débat de midi pose une question presque métaphysique aujourd'hui. Quel est le meilleur des super-pouvoirs ?
Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction.
Tous montrent des aptitudes physiques exceptionnelles. Nos pouvoirs doivent servir l'humanité.
Il lui faut combien de temps pour entrer ?
2 minutes.
Peut-être un peu moins.
Jessica Jones. Je t'ai vu.
T'es au courant de quoi ?
Tu peux défoncer un mur d'un coup de poing ? Arrêter une voiture qui roule ? De mon point de vue, être un héros, c'est porter une cible.
Ouais, je m'en suis rendu compte.
Est-ce que tu es prêt à devenir un héros ?
C'est marrant, vous avez pas l'air comme ça.
De quoi ?
Tu dois nous sauver, John. Tu dois sauver le monde. C'est ta destinée.
Arrête de parler comme un super-héros, c'est ridicule.
On est tous des super-héros ici.
Si vous dotez tout le monde de super-pouvoirs, ce sera le chaos.
Dans ce petit mélange, il y avait un peu de Spider-Man, une rasade de Jessica Jones, un soupçon de Ant-Man et une pincée des Quatre Fantastiques. Alors personne n'en a super marre apparemment. Les super-héros...
Je crois qu'il y avait aussi une petite pincée du feuilleton français HeroCorp.
Exactement. Ouais, j'en avais oublié, hein. En effet, Xavier Fournier. Les super-héros n'en finissent pas en tout cas de faire recette au cinéma. Black Panthers, sorti cette année, a rencontré un succès colossal, tout comme Avengers Infinity War et Les Indestructibles 2, qui est en salle en ce moment, film d'animation des studios Pixar, 14 ans d'ailleurs après le premier volet. Et on attend mercredi prochain la sortie de Ant-Man et la Guêpe. Il est étonnant, cet homme fourmi, Xavier Fournier, un homme, donc Ant-Man, qui peut devenir petit comme une fourmi, mais qui a une force colossale.
Un homme qui peut changer de taille, et une femme qui peut changer de taille aussi. Oui. Et à une époque, d'ailleurs, quand la Ant-Man et la Guêpe ont commencé dans les années 60, c'était d'ailleurs assez particulier parce que la libération de la femme n'était pas passée par là. Donc ils ont tous les deux une pilule qui permet de changer de taille, et seul Ant-Man arrive à s'en servir pour devenir Giant-Man. Et la Guêpe restait la Guêpe avec des petits pouvoirs minuscules, et il fallait surtout pas déranger, et ça a évolué avec le temps. Le film d'ailleurs qui va sortir le montre bien, parce que c'est elle qui fait pratiquement tout le boulot.
Donc vous l'avez vu, hein, ce film qui sort mercredi prochain, qu'est-ce que ça donne ?
C'est la même recette que le premier film, donc ceux qui ont cordialement aimé le premier vont cordialement aimer le deuxième, et ceux qui ont cordialement détesté le premier changeront pas d'avis. Mais clairement, il y avait un petit truc qui manquait au premier, c'était qu'il y avait déjà ce personnage qui était joué par Evangeline Lilly, qui était une sorte de mentor, hein, qui entraînait Ant-Man à devenir un héros, mais qui n'était pas officialisée elle-même en tant que super-héroïne. Et là elle est... D'ailleurs, le film pourrait s'appeler La Guêpe et Ant-Man, en fait.
Ah, très bien. Anaïs Bordage, journaliste à BuzzFeed. Moi, quand je pense à ce petit bonhomme qui devient grand comme une fourmi, ça m'évoque immédiatement Chérie, j'ai rétréci les gosses, film culte. Sauf que là, l'idée, c'est pas de retrouver les enfants, mais plutôt de sauver la planète. Il y a une autre ambition, quoi.
Oui, c'est ça. Après, est-ce que c'est forcément une bonne chose de devoir sauver la planète ? Pourquoi pas, en fait, utiliser les pouvoirs juste pour son petit confort perso, quoi. Mais effectivement, Ant-Man, je pense que ce qu'on attendait tous, c'était l'apparition de cette héroïne qui était assez impressionnante dans le 1, mais sans qu'elle prenne vraiment beaucoup de place. Et là, en fait, moi j'ai hâte de la voir prendre un peu le devant de la scène, quoi.
Vous avez envie de le voir, donc cet homme
complètement.
Ça pose des questions scientifiques intéressantes aussi, ce Ant-Man, sur la place du vide dans la matière, parce que c'est censé fonctionner comme ça, la réduction, Xavier Fournier.
Alors après, les histoires de super-pouvoirs et la science, c'est une histoire d'amour et de haine. Hein. C'est pas toujours. Je pense qu'il y a parfois des professeurs de physique qui s'arrachent les cheveux en voyant les films, en lisant les BD, parce que on est proche de la magie. Il y a un charabia scientifique qui rend tout possible. Ant-Man, il arrive à comprimer ses atomes pour devenir plus petit, et quand il est plus grand, il devrait être en fait une sorte de ballon dirigeable. Sa masse, sa densité devrait être complètement déréglé, et non, il est super fort, donc c'est un peu à voile et à vapeur selon l'humeur du scénariste.
Il y a un lien à faire entre le fait de devenir tout petit et super fort, Xavier Fournier. C'est parce qu'il comprime sa masse.
Dans un cas, on nous explique que puisqu'il est tout petit, il devient plus dur, plus dangereux, en fait, plus fort qu'un être humain normal. Et puis, ça marche aussi dans l'autre sens, bien entendu. Quand il est grand, il prend un camion, il le soulève sans problème.
Et puis, j'aime bien l'idée qu'il ait un masque qui lui permette de communiquer avec les fourmis, les vraies fourmis.
C'est ça, ouais. Et en fait, le truc marche assez bien parce qu'en fait, à partir du moment où vous combinez ça avec des individus, donc les fourmis qui vous obéissent, vous avez finalement moyen de réduire des immeubles entiers, de transformer des jouets d'enfants en voitures de course. Enfin, il y a des applications. Ça a l'air d'être un pouvoir simple, mais les applications sont sans fin.
Je vous recommande d'ailleurs vivement le podcast proposé par France Inter, hein, consacré à tous les héros Marvel. On vous entend dedans, d'ailleurs, Xavier Fournier. Vous le trouverez sur notre site et dans les applications de podcast. Ça s'appelle La Fabrique des super-héros. Et il y a des scientifiques très sérieux, hein, qui se penchent sur la faisabilité de ce monsieur fourmi. Finalement, Pénélope Bagieu, devenir tout petit, ça fait beaucoup plus rêver que de devenir un géant.
Moi, ça me fait pas penser à Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah. Ça me fait penser, vous vous souvenez de L'Aventure intérieure ?
Ah oui, c'est pas ce... Non, Il était une fois la vie, je confonds, là, on se promenait dans le corps humain. C'est bien aussi, ça.
C'est sympa. Et c'est un peu le même principe, mais c'est pas un dessin animé. Et il allait réparer l'intérieur du corps de quelqu'un, en fait. Ça sert à quelque chose.
En prenant un bateau qui passe par les veines.
C'est un film très 80s.
Est-ce qu'on prend autour de la table ce super pouvoir-là, devenir tout petit ?
Je ne crois pas que ça sert à grand chose, non,
non. Non, ouais. Ça ne sert pas forcément à grand chose, mais finalement, du coup, dans un F2, vous pouvez mettre. vous pouvez garer des.
Mais on avait dit conserver des pouvoirs, faire des trucs super importants pour l'humanité, pas pour faire Marie Kondo. Donc, il faut,
Alors, justement, c'est intéressant parce que les super-pouvoirs, ils racontent toujours leur époque, Xavier Fournier. Le fait que tout le monde autour de moi me dise, moi, je voudrais pouvoir me téléporter, ça raconte les aspirations humaines contemporaines ?
Évidemment, ouais.
Anaïs Bordage.
Je pense que là, en fait, les super-pouvoirs, bon, déjà, effectivement, ils sont toujours en phase avec, leur époque. Et là, actuellement, quelle est la problématique pour beaucoup de gens ? C'est de pouvoir se déplacer le plus vite possible, le plus loin possible. Donc, pouvoir se téléporter, c'est éviter de prendre l'avion. Pour ceux qui en ont peur, c'est pratique. Et puis, effectivement, comme vous le disiez au début de l'émission, c'est pouvoir aller prendre sa pause café au Népal si on a envie, ne pas arriver en retard au bureau le matin, parce que si on se réveille, bah, on arrive deux minutes après avec la trace de l'oreiller, certes, mais on arrive à l'heure. Donc la téléportation, effectivement, à l'heure actuelle, ça résout beaucoup de problèmes très modernes.
J'étais étonnée que l'envie de voler ne soit pas plus répandue. Xavier Fournier, vous, ça vous étonne ?
Vous tombez mal, moi j'ai le vertige. Alors si vous me donnez le pouvoir de voler, je serai le type sur Terre qui vole sur 20-30 cm mais qui ne veut pas aller plus haut parce que ça l'enquiquine.
C'est un fantasme que l'humanité a déjà résolu, peut-être.
Oui, mais il y a de ça, en fait. C'est vrai que si vous prenez Superman au début des années 40, ce type est super fort, vole bien entendu, fait tout. Et en fin de compte, c'est assez marrant de regarder la popularité des super pouvoirs. On peut faire un parallèle avec la stratégie, la tactique militaire. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une course aux armements à un moment dans les années 40, et vous voyez des héros de plus en plus puissants. Alors je dis pas que c'est connecté directement, mais ce sont deux repères un peu du même sentiment sans doute de l'opinion publique, des pouvoirs publics. Et puis vous voyez bien que maintenant on est plutôt dans le drone, dans la frappe chirurgicale, dans l'avion furtif. Et donc, on a des pouvoirs beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus fins, mais qui peuvent être quand même très dangereux.
Portrait de la technologie aussi, donc, de son époque.
Il y a une excellente série qui s'appelle Sense8.
Disponible sur Netflix.
Il s'agit d'huit personnes qui sont connectées à travers le monde et qui, du coup, arrivent à cumuler leurs aptitudes. Alors, ce n'est pas des aptitudes de super pouvoir au premier degré. Il y en a un qui est flic et donc qui est un très bon tireur. Il y en a un qui est un chauffeur hors pair. Il y a plein de choses comme ça qui se cumulent. Et en fin de compte, cette histoire de gens hyper connectés qui sont des surhommes, c'est jamais qu'une parabole des réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous êtes connecté à des gens qui sont sur un autre continent, qui ne vivent pas au même moment que vous, mais qui peuvent vous apporter leur aide s'il y a besoin.
Sense8, effectivement, série disponible sur Netflix, et que l'on doit aux sœurs Wachowski, qui ont également signé la saga Matrix. Pénélope Baggio, vous êtes cliente de cette série ?
Alors Sense8, j'avais vraiment très envie d'aimer. Parce que je trouve que le pitch était bien et puis que c'était quand même un casting assez audacieux. Après, c'est un débat éternel, Sense8, avec les gens, parce que je trouve que c'est un peu une promesse non tenue. Mais
c'est une fausse bonne idée.
C'est-à-dire que tous les personnages sont archi caricaturaux finalement, donc en fait, bof. Mais j'ai regardé la saison 1 quand même jusqu'au bout. Et je suis très contente que les fans aient un final magnifique là pour terminer le truc en beauté.
Il faut raconter à ceux qui l'ignorent, c'est une série qui a été sauvée par ses fans.
Exactement. Les gens étaient tellement malheureux que la série s'arrête qu'ils ont supplié Netflix de faire une autre saison, et puis Netflix a fait une espèce de petite pirouette et a dit on va vous faire un bel épisode final. Et puis comme ça,
il dure quoi, une heure et demie, c'est ça ? Un iceboardage ?
Presque 3 heures. Donc en fait, si on le coupait en épisodes, on aurait presque une petite saison complète, parce que le dernier épisode est très très long. Ouais.
Les super pouvoirs de Sense8, que racontent-ils à votre avis, Anaïs Bordage ?
Bah effectivement, c'est les super pouvoirs de Sense8, c'est comment en fait utiliser les différences pour rassembler et pour devenir plus fort. Le principe, c'est que la différence, on pense qu'elle divise, mais elle peut aussi unir les gens. Et donc là, on a des personnes très différentes qui viennent des quatre coins du monde, qui ont des expériences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui ont des aptitudes toutes différentes. Et donc là, en fait, on peut rassembler en une seule et même personne toutes les aptitudes de ces huit personnes. Oui. Donc voilà, on a un chauffeur, on a une personne qui fait des arts martiaux, et ça nous crée une personne qui sait tout faire, quoi.
C'est d'ailleurs ce que me disait Marie Sauvion ce matin. Marie Sauvion, qui présente une bonne tasse d'été tous les jours à 9h sur France Inter. Elle, le super pouvoir qu'elle rêverait d'avoir, ce serait d'avoir lu tous les livres et de s'en souvenir. Est-ce qu'il y a un super héros qui existe, qui aurait la mémoire intégrale ? Anaïs Bordage ? Xavier Fournier ?
Oui, il y a des personnages comme ça dans les comics. Alors, il y en a un dans une série qui s'appelle Les New Mutants, qui s'appelle Cypher, et qui maîtrise tous les langages, effectivement, et qui a un peu une connaissance innée de tout ce qu'on peut avoir comme science et connaissance.
Là, ça renvoie à Borges, hein, et son idée de l'Aleph. C'est cet auteur argentin qui a imaginé un Aleph dans lequel on pourrait voir toute la connaissance immédiatement.
Et c'est pas pour revenir à mon super pouvoir que j'avais choisi, qui je trouve quand même le mieux, mais pour l'instant...
Mais oui, battez-vous, négociez.
Il arrête le jeu de tous vos super pouvoirs, parce que lire tous les livres quand on peut arrêter le temps, c'est faisable.
Voilà.
En fait, c'est mais quand même pas mal une réponse même. À tous les super pouvoirs. Se téléporter, pourquoi, quand en fait on peut très bien voyager pendant 20 heures et qu'on s'en fout.
Yann, auditeur, va dans votre sens, il nous écrit, c'est nul, la téléportation, ça rend le principe de voyager obsolète. Eolia, quant à lui, nous écrit qu'il rêverait de pouvoir voler, donc il nous contredit. Hein. Tu as le plaisir du voyage et la liberté du déplacement, écrit-il. Et puis j'aime beaucoup la réaction de Winston par Twitter. Il voudrait avoir le fric de Bruce Wayne. Xavier Fournier, c'est quoi le super pouvoir de Batman?
Je pense qu'il est riche. Alors, il y a le super pouvoir de Bruce Wayne et le super pouvoir de Batman. Le super pouvoir de Bruce Wayne est effectivement le même que Lex Luthor. Ce sont des ou peut-être même que c'est le même que Donald Trump. C'est de faire ce qu'ils veulent avec leur fortune et de faire des choses démesurées. C'est ce qui finance l'arsenal de Batman, les X versions de la Batmobile, les Bats avions, les Bats secoupes volantes. Je disais tout à l'heure en antenne que Batman a un pouvoir auquel on fait pas forcément attention, c'est que toutes les aptitudes physiques auxquelles il se livre, quand il se jette du haut d'un toit accroché à une batte corde, il faut surtout pas essayer ça chez vous. La loi de la physique va vous rattraper, vous allez vous démancher le bras, l'épaule et surtout tomber en vous faisant mal. Donc, quand bien même il a quelques cicatrices, quand bien même parfois il en prend plein la figure, Batman reste le pinacle de l'humanité et je connais personne qui puisse faire la même chose.
Il y a un truc que j'aime bien moi aussi avec Batman, c'est le truc que je trouve un peu gênant toujours avec les super-héros. C'est ce côté, t'es né comme ça, t'es touché par la grâce, et du coup, bah, évidemment, tant qu'à faire, tu vas sauver le monde, tu vas pas t'en serrer pour faire ta compta, quoi, encore heureux, mais évidemment, je me suis réveillée, puis j'étais Superman, je suis Peter Parker, et je me fais piquer par une araignée, mais chez moi, ça fait des pouvoirs. Et j'aime bien le côté, alors, démocratique, du coup, c'est pas vraiment le mot très bien choisi pour Bruce Wayne, vu que ça passe quand même par l'argent, mais un petit peu comme quand dans Harry Potter, les enfants qui ont un parent moldu peuvent quand même y arriver. C'est que l'aspect hyper élitiste des super pouvoirs me dérange, c'est que c'est un peu la loterie et si jamais on est né en étant incapable de faire un truc, bah tant pis, on sera toujours spectateur. Et finalement, Bruce Wayne, il trouve la parade par l'argent, mais il trouve une parade quand même. Ce serait mieux si c'était par la connaissance et l'apprentissage et l'humilité, mais bon, on par l'argent.
Il y a autre chose, il y a le côté caméra embarquée des histoires de super-pouvoirs. On est toujours forcément amené à sympathiser avec tous ces personnages dont on sait qu'ils veulent faire le bien, en général, et même un monstre comme Hulk, on arrive à compatir avec lui parce que quelque part, on a vécu toute son histoire, et puis on est comme ça, comme une petite conscience sur son épaule. Moi, si votre bulletin d'information m'apprenait qu'il y a un milliardaire qui a décidé de se déguiser en chauve-souris pour rôder avec tout un arsenal sans rendre de compte à personne, je changerais de ville. Je voudrais pas vivre dans la même. Je serais pas en mode fan en disant super, je veux un film. Je me casserais. Donc là, c'est bien les super pouvoirs dans la fiction. Dans la réalité, je suis pas sûr qu'on serait de grands fans.
Et c'est ça que raconte d'ailleurs les Indestructibles 2, hein, que finalement les super pouvoirs font peur à tout le monde. Les super héros sont devenus des parias. Xavier Fournier.
C'est un thème qui est d'ailleurs souvent, depuis la grosse explosion de Marvel dans les années 60, c'est un thème qui est souvent utilisé. Il y avait ça dans Spider-Man qui pendant des années a été accusé d'un meurtre qu'il n'avait pas commis. Mais il y a autre chose que raconte le film Indestructible 2, c'est aussi que le pouvoir ne sert pas forcément à grand-chose si vous n'avez pas la bonne attitude. Dans ce film-là, il y a un moment, il y a une jeune fille super timide qui est une sorte de geekette, qui est fan des Indestructibles et qui a justement une sorte de variant de la téléportation.
C'est-à-dire
qu'elle peut ouvrir des portails, des petits portails, et donc, du coup, si elle ouvre un portail près d'elle, passe la main et ouvre un portail 20 mètres plus loin, elle peut vous donner un coup de poing à distance. Mais elle est complètement timide, elle est pas très compétente, et à un moment, elle passe sous le contrôle de quelqu'un d'autre qui la dirige, et là, du coup, ça devient un pouvoir très dangereux parce que c'est animé par une volonté. Et le super pouvoir, avec ou sans volonté, ça fait toute la différence.
C'est ce que nous écrit un certain Hank sur Twitter. C'est pas le tout d'avoir un super pouvoir, c'est qu'il faut savoir comment l'utiliser, Anaïs Bordage.
Bah exactement, si on a un super pouvoir mais qu'on s'en sert pour faire le mal, déjà, ça peut dégénérer très vite. Et parce que les super pouvoirs, il y a des super héros qui en ont, mais il y a aussi des super vilains, des super méchants. Et effectivement, Batman peut être plus inquiétant qu'autre chose. Enfin, c'est pas anodin de faire la comparaison avec Trump, quoi. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est l'argent. L'argent, c'est le pouvoir absolu actuellement, parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'argent? On peut se déplacer très vite, on peut aller où on veut, on peut faire obéir à ses ordres n'importe qui, on peut manipuler la pensée. Donc en fait, un super pouvoir, si on s'en sert mal et si on s'en sert pour faire le mal, C'est pas sûr que ce soit une très bonne chose.
Quel est le plus drôle des super-héros, à votre avis, Anaïs Bordage?
Deadpool est assez drôle parce que déjà...
On rappelle qui est Deadpool, peut-être?
C'est un monsieur qui ne peut pas mourir.
C'est un Marvel, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et qui est connu pour son attitude un peu méta, c'est-à-dire qu'il commente le fait d'être un super-héros, il fait des blagues sur le sujet, il parle de tout l'univers des super-héros, l'univers cinématographique. Et moi, je l'aime bien parce que justement, il ne peut pas mourir, donc déjà, c'est plutôt pratique. Et puis, ça crée toute une série de gags, de se faire couper un membre et de pouvoir le faire repousser immédiatement. En fait, ça peut...
Encore votre hypocondrie là qui pointe.
Ouais, voilà, décidément.
Il y a un personnage qui est drôle, alors qui est pas comique, mais qui est drôle. Je pense à évoquer, c'est un ancêtre de Superman, qui c'est un personnage de roman. Le roman s'appelait Gladiator, signé d'un certain Philip Willy, et ça a été une inspiration majeure de Superman. Le type a les mêmes pouvoirs que Superman. Il est indestructible, il est plus résistant, il est immortel, sauf que le roman commence et on ne sait pas pourquoi il a ses pouvoirs, lui-même ne sait pas pourquoi, il ne sait pas quoi en faire. Donc il fait du sport un peu, il devient le champion de football américain de son lycée, voilà. Tout va bien, mais il ne sait pas quoi en faire, et pendant tout le roman, il se demande quoi en faire, et ne lui vient pas l'idée d'être un héros et d'aider son prochain, à part des petits cas un peu exceptionnels dans le truc, mais voilà, il ne sait pas quoi en faire, et finalement il monte sur une montagne, et il pointe le poing en l'air en disant « Mais Dieu, mais pourquoi tu m'as mis sur terre ?» Et à ce moment-là, il est tué par la foudre.
Ah ouais.
Tout le but du roman, c'est de dire que même si tu as des super-pouvoirs, tu n'es pas plus puissant que certaines puissances.
Voilà. Ça renvoie toujours à des questions existentielles ou métaphysiques. Hein. Pénélope Bagiole, quel est le plus drôle alors?
Je ne sais pas lequel est le plus drôle. Je n'ai pas préparé ma fiche. Mais c'est marrant, ça me fait. Je ne sais pas si vous avez lu ou vu Watchmen.
Ouais.
D'Alan Moore.
Pas moi.
Qui est vraiment une réflexion là-dessus sur qui surveille les super-héros, qui est là pour s'assurer que ce qu'ils ont décidé être le bien, est-ce que c'est vraiment le bien?
Est-ce qu'il y a une instance de contrôle,
quoi. Oui, c'est ça. Et quand les gens commencent à dire, mais en fait, il y a une séquence comme ça dans le premier Spider-Man aussi, de se dire, mais en fait, on t'a rien demandé, à quel moment tu décides que tu fais le bien?
Il manque un peu d'humilité, non? De manière générale, les super-héros.
Je suis pas entièrement d'accord avec ça. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre le super-héros et le surhomme de niche. Le surhomme de niche nous regarde de loin, on est des fourmis, on n'existe pas pour lui. Et encore, dans ces moments-là, on s'en tire bien. Si on commence à exister, il peut décider de faire sans nous et on se retrouve mal. Le super-héros, finalement, c'est toujours le type qui a quand même, ou l'héroïne, qui ont un regard vers plus faible qu'eux, qui s'en occupe. Alors, ça peut être jugé condescendant, mais fondamentalement, sont des super pompiers. On est content là pour le coup de se dire que des gens comme ça peuvent sauver le monde. Si vous avez personne pour sauver le monde alors qu'il est en danger, vous avez un gros problème.
Puisque vous parlez de pompiers, on a beaucoup parlé cette année de celui qu'on a appelé Spider-Man, Mamadou Gassama, l'homme qui a escaladé un immeuble pour sauver un enfant. C'est étonnant que tout de suite soit venu ce petit surnom, Spider-Man, Anaïs Bordage.
En fait, on a des héros du quotidien et c'est vrai que les super-héros, ils nous font rêver. C'est pour ça que quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire, tout de suite, on a envie de projeter une super-puissance sur cette personne en se disant, on a besoin de gens comme ça pour que la société réussisse un peu.
Parce que j'aurais tendance à penser que les super-pouvoirs de Spider-Man, ils ne servent pas à grand-chose.
Alors que lui, il a eu des papiers.
Alors que là, ça a servi à quelque chose.
C'est quand même mal.
Vous lisiez des comics, vous, quand vous étiez petite, Pénélope Bagieu?
En fait, j'avais des vieux Strange chez moi et des vieux Thor.
Strange, c'est une revue qui date des années...
Ça a été la colonne vertébrale pour les jeunes lecteurs de comics entre les années 70 et 90. Quoi. C'est là-dedans qu'on a découvert Marvel et qu'on a suivi les aventures de ces personnages.
Alors, j'étais sur le point de dire qu'il devait sûrement appartenir à mes parents, mais donc visiblement non. Il devait appartenir à je sais pas qui, d'ailleurs. Du coup, je sais pas pourquoi j'avais ça à la maison. Je trouvais ça très bien. J'avais un peu du mal à m'identifier puisqu'il n'y avait pas énormément de personnages féminins. Mais bon, ça c'était un peu la règle générale avec la BD quand j'étais petite. Mais moi, c'était surtout le dessin qui me fascinait. C'est que j'ai appris à dessiner de l'action en recopiant ça, en fait.
Quel personnage en particulier?
C'était pas vraiment un personnage. J'avais un livre qui, encore une fois, je sais pas par quel miracle il avait atterri chez moi. Il faut vraiment que je mène l'enquête sur cette maison où les livres apparaissent. Mais j'avais un bouquin qui s'appelait How to Draw Comics de Marvel Way. Et c'était un bouquin hyper didactique, un peu même très scolaire, sur chapitre 1, les yeux, chapitre 2, l'action, machin, mais aussi avec des trucs de cadrage, de comment dessiner une perspective d'une maison, etc. Donc vraiment très très old school. Mais je pense que j'ai vraiment, ça a été de la grammaire, quoi. J'ai vraiment des rudiments qui viennent de là, même si c'est complètement imperceptible quand on voit comme je dessine, je pense. Parce que j'ai un dessin pas du tout réaliste et que je suis incapable de dessiner une bagarre ou une voiture ou quoi que ce soit. Enfin, je serais la pire dessinatrice de comics, je pense, qui existe. Mais même si j'ai fait une couve de comics récemment, je me suis dit, c'est vraiment, on est vraiment au top de l'imposture. C'est super, j'ai fait une couve de Miss Marvel. Voilà. Mais c'était super parce que, il y avait vraiment une façon de dessiner l'action sans avoir besoin de mettre un million de petits traits, parce que c'est quand même un peu la béquille du dessin en général.
Il y a une esthétique du mouvement.
Mais ouais, c'était fou. C'était très complémentaire du franco-belge, en fait. C'était top.
Alors, le franco-belge, en ce moment, on n'a pas la cote, hein, parce qu'on a écrasé les Belges en finale de la Coupe du Monde.
À l'époque, on était tous amis.
Ah, avant. C'est ça, ce temps-là, d'accord. Ouais. Allez, on poursuit ce super débat juste après Camille sur France Inter.
Je suis la fille sans joie d'un sans fête, une larme sans poids, une boîte sans lettres. Je suis piscine de part, une piscine d'hôtel. Sur mes côtes d'azur, c'est chaud, les âmes faibles. Ma salive sans le chlore, mon lit décontamine. On s'y pousse, on s'y mêle, on y commet des crimes. Je suis piscine de sang, une piscine qui sait se taire et faire semblant.
L'affiche le 4 août d'un festival qui porte un très joli nom à Langres, le festival Le Chien à Plumes, également attendu le 5 août au festival du Bout du Monde à Crozon. C'était Camille sur France Inter. On parle de super pouvoir aujourd'hui avec mes invités Xavier Fournier, spécialiste de comics, Anaïs Bordage, journaliste à BuzzFeed et Pénélope Bagieux, auteur de bande dessinée.
Le débat du midi, Dorothée Barba sur France Inter.
Il a l'air normal pourtant. Quand est-ce que ça a commencé?
Quand Hélène est partie travailler.
C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Lui, il est trop bizarre.
Tu t'es lavé les mains?
Merci, jeune homme. Vous êtes bien gentil.
Il est temps, grand temps, de réparer nos erreurs. Aidez-nous à faire sortir de l'ombre tous les supers. Nous devons changer l'opinion des gens sur les super-héros. Et pour cela, Elastigirl est notre meilleur atout.
Meilleur que moi ?
Et oui, le papa reste à la maison et la maman va sauver le monde pendant ce temps-là. Extrait de la bande-annonce du film d'animation Pixar, Les Indestructibles 2 de Brad Bird, actuellement au cinéma, et je vous le recommande vivement. Alors j'étais curieuse de savoir ce qu'en pense un critique ciné qui porte un masque et une plume. Je l'ai dérangé pendant ses vacances du coup. Bonjour Xavier Le Herpeur.
Non mais vous ne me dérangez pas du tout. Bonjour Dorothée, bonjour à tous vos invités, j'en connais certains et je les salue.
Comment ? Alors est-ce qu'elle vous a plu cette famille indestructible, Xavier ?
Ben, moi j'adore Les Indestructibles. Alors, pour être le critique de cinéma méchant et qui n'aime rien parce que je me dois la réputation.
Bien sûr.
Je trouve que c'est un peu un copier-coller du premier épisode. Il y a les mêmes scènes au même endroit. On va essayer les tenues de Jack au milieu du film pour apporter un peu d'humour et ramener ce personnage extrêmement drôle, doublé en français par Amanda Lear. Voilà. Je trouve que le film ne s'affranchit pas complètement du premier épisode et qu'il inverse simplement un peu le processus. Vous l'avez dit, effectivement, c'est la femme qui va défendre le monde et l'homme qui va rester à la maison. Ceci, mis à part, Brad Bird est un génie de la mise en scène du mouvement. Il a réalisé le meilleur Mission Impossible à ce jour. Et il y a une virtuosité, une fluidité dans le mouvement qui fait que ça pallie les petites, les petites réserves que je peux avoir sur le scénario. Mais le plaisir est tellement gourmand et tellement référencé, tellement intelligent et enfin féministe que oui, non, j'ai envie de dire que j'ai adoré ça. C'est quand même proche de la réalité.
Ça valait le coup donc d'attendre 14 ans hein, parce qu'il y a eu 14 années entre le 1 et le 2. C'est un peu dingue.
Non, mais bien sûr que ça vaut le coup. De toute façon, l'attente, la frustration, c'est toujours dépendant du plaisir qu'on va y prendre. Et Pixar, de temps en temps, effectivement, va trop vite en matière. Il ne soigne pas ses scénarios. Bon, là, j'ai cette petite réserve-là. Mais ceci, mis à part, c'est quand même virtuose. Il faut le temps de mener l'animation à bien, d'utiliser les nouvelles techniques. Oui, ça valait la peine, franchement.
Vous êtes, je crois, comme moi, absolument fan de Jack-Jack, le bébé de la famille indestructible.
Ben on l'adore, Jack-Jack. Déjà, on était tombé amoureux red-dingue de lui au premier épisode. C'est l'autre petite réserve.
Il n'a pas pris une ride, d'ailleurs, en 14 ans.
Non, il n'a pas pris une ride. Hein. En 14 ans, il est intact. Hein. C'est quand même là le super pouvoir dont on rêve tous et toutes. C'est de ne pas vieillir en 14 ans, de ne pas changer du tout. C'est l'autre réserve que j'ai sur le film. J'ai l'impression que les super pouvoirs de Jack-Jack, ils sont un peu inventés au fur et à mesure que le scénario en a besoin. C'est-à-dire qu'en gros, il va devenir invisible. En gros, il va cracher du feu. En gros, chaque fois qu'ils ont un petit problème, ils le résolvent comme ça. Mais le personnage est enfin tout le temps à l'écran et j'adore ça.
Bon, Xavier Le Harper, la question pour vous, quel est le meilleur des super-pouvoirs?
Alors moi, je vais militer pour la téléportation qui depuis le début de la traduction, une mauvaise presse, mais attendez, mais oui, pour la téléportation, le plaisir du voyage, d'attendre pendant des heures dans un aéroport, de voyager pendant 20 heures avec les genoux dans le nez, ben je le laisse à qui veut, moi je suis désolé, mais vive la téléportation pour aller prendre ce soir un pot à Bangkok ou à Hong Kong qui doit maintenant se réveiller à New York, je suis désolé. Et quand vous prenez le métro 4 ou 5 fois par jour comme moi, et de temps en temps les taxis que vous subissez les grandes gueules sur RMC, ben alors je milite encore plus pour la téléportation. Excusez-moi.
Et ben voilà qui est dit. Merci beaucoup Xavier Le Harper, l'un des critiques du Masque et la Plume. C'est bien sûr tous les dimanches soirs sur France Inter. Très belle journée à vous. Et à bientôt. Il est déjà parti. Merci Xavier.
Non, je suis là.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.
Alors, la téléportation, revenons-y, puisque c'est important. Si je me téléporte immédiatement là et que je vais voir le Machu Picchu au Pérou, que devient le moi qui est en studio, Xavier Fournier? Il y a un problème scientifique à résoudre là. Est-ce qu'il meurt?
Ça dépend des films ou des BD que vous regardez. On en parlait pareil tout à l'heure un petit peu en échauffement avant l'émission. C'est vrai que vous avez l'exemple de la mouche où on vous explique qu'il y a un être qui se déconstruit pour pouvoir être reconstruit ailleurs. Après, vous avez des personnages assez fameux dans les comics et au cinéma, comme tel que Diablo dans les X-Men, qui se dissipe dans un grand nuage de fumée et qui réapparaît ailleurs sans cette problématique-là. Donc je dirais que là aussi, les scénaristes sont pas forcément physiciens et que ça dépend vraiment de la volonté ou de la culture peut-être de la personne qui écrit.
Anaïs Bordage.
Après, le problème avec Diablo, c'est qu'il peut pas se téléporter très loin. Mmh. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien lire le contrat avant de d'accepter la téléportation. Si c'est pour faire 2-3 bonds dans l'espace, mais pas très loin, en fait, ça a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, effectivement, pour se déplacer à l'autre bout du monde. Voyager, effectivement, c'est super. Et le pouvoir de voler, en fait, c'est le pouvoir des rêveurs. Et le pouvoir de la téléportation, c'est le pouvoir plus pragmatique, je pense. Ça n'empêche pas de voyager. On peut très bien se téléporter au Machu Picchu et après faire une petite rando là-bas et profiter.
Oui.
Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Mais la téléportation, moi, je ne sais pas sur les questions scientifiques exactement comment ça marche. Mais si on a toutes les conditions réunies, qu'on n'a pas le risque de se prendre un mur quand on atterrit, moi, je suis pour.
Ou d'atterrir tout nu.
Pénélope Bagieu.
Effectivement.
Ah oui, parce qu'on se téléporte, mais sans
savoir quelle est la limite. À partir de quelle zone c'est encore moi? Est-ce que mon siège vient avec moi ou est-ce que mon short vient avec moi?
On est prêt à se retrouver tout nu si ça.
Si c'est au Machu Picchu, ça passe.
Dans cette catégorie-là, vous avez aussi des gens qui trichent, qui ne se dématérialisent pas comme ça d'un bond ou dans un éclair, mais qui ouvrent des portails, c'est-à-dire qu'ils ouvrent la porte de la pièce et ils se retrouvent ailleurs.
Docteur Strange.
Oui, voilà, il y a un peu ce truc-là.
Alors parlons de ce Docteur Strange, Anaïs Bordage. Moi, j'adore sa cape. Est-ce qu'on peut décrire la cape de ce Docteur Strange à nos auditeurs?
Elle a une vraie personnalité en fait. Ouais. Elle est assez caractérielle et elle lui donne tout son charisme aussi et effectivement.
Elle remonte un peu jusqu'aux oreilles d'abord.
Exactement. Un peu à la Dracula.
Voilà. Ouais. Et à quoi elle sert?
À quoi elle sert je ne sais plus à quoi elle
sert. Xavier Fournier.
Alors dans les comics donc j'en profite pour préciser que Doctor Strange est une création de Steve Ditko, un dessinateur et souvent scénariste qui est décédé il y a pas très longtemps, il y a quelques jours à l'âge de 90 ans et qui était aussi le co-créateur de Spider-Man. Cette cape là en fait d'abord ça installe le côté mystique hein,
ça pose le
personnage et puis elle lui sert à voler. C'est un manteau de lévitation dans les comics et ils ont adapté un petit peu la chose dans le film où c'est pratiquement un organisme vivant, c'est-à-dire que c'est un vêtement qui s'impose à son propriétaire dans le film Doctor Strange. Et c'est pas du tout lui qui choisit de porter ça, c'est la cape qui se précipite sur lui.
Encore une fois, donc un héros qui n'a pas choisi ses pouvoirs et qui, au long du film, devra les assumer. Est-ce que c'est pas un peu toujours le même film, les super-héros, Xavier Fournier? Ah non, je me permets cette question, je marche sur des œufs parce que j'ai affaire à des amateurs.
Vous savez, il y a des grandes théories de scénarios qui vous diront qu'il y a 6 ou 7 histoires possibles dans les films, dans les romans.
Pour toute la fiction.
Vraiment sur le fond de ce que vous dites, je pense aussi que c'est sans doute aussi ce qui plaît au public, l'idée du puissant qui ne veut pas être puissant. Ça nous rassure tous dans notre rôle. Du coup, on se dit
du coup, je suis très bien comme je suis.
C'est la version super pouvoir de l'argent ne fait pas le bonheur. Et quand on a des difficultés à boucler la fin du monde, on se dit ils sont pas plus heureux que nous, tout va bien. Il y a ce côté rassurant. Et un type qui aurait des super pouvoirs, qui serait très content de les avoir, qui assumerait la chose, il aura un côté gontran bonheur dans les aventures de Donald. Ça serait le type insupportable qui tout sourit et ça nous lasserait quoi. Oui.
Pénélope Bagieu. Pareil.
Ouais, et puis il y a aussi des super-héros qui ont un pouvoir qui est, je sais pas, Malicia dans X-Men par exemple. Je trouve que c'est un personnage hyper intéressant parce que donc elle a son pouvoir, c'est qu'elle peut temporairement récupérer les pouvoirs des autres mutants en les touchant.
Un vrai truc d'opportuniste.
Voilà. Sauf que en fait elle tue les gens qu'elle touche aussi. Donc quand l'histoire démarre, elle est ado et c'est compliqué de pas pouvoir toucher les gens. Et en fait, elle est interdite de contact, elle a des gants, même ses propres parents peuvent pas la toucher. Elle, pour le coup, elle a vraiment un pouvoir qui est 100% altruiste, c'est-à-dire qu'il lui sert à rien à elle. C'est qu'elle, son pouvoir, c'est une malédiction, mais elle peut que aider les gens. Je trouve que c'est une bonne alternative à... Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de tous ces pouvoirs merveilleux? Je sais pas quoi en faire. Voilà.
Ouais. Analyse Bordage.
Moi, j'irais complètement dans le sens opposé. Je pense que, en fait, ce qu'on voit dans tous ces films, ces séries, ces comics, c'est qu'un pouvoir vient avec une grande responsabilité.
Spider-Man.
toujours avec un inconvénient, en fait. Il y a toujours une contrepartie avec la plupart des pouvoirs qu'on a. Et du coup, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que le meilleur, c'est peut-être celui dont on se sert uniquement pour soi. Parce que quand on commence à vouloir sauver des gens,
qui n'ont rien demandé.
Voilà, comme on le voit dans Les Indestructibles, plein d'autres éléments de la pop culture où les gens disent « mais je voulais pas être sauvé, en fait, je veux être libre de faire ce que je veux ». Peut-être que le meilleur super-pouvoir, c'est celui qui est purement égoïste, qu'on utilise tout seul dans son petit coin, qui va pas toucher les autres, mais du coup qui a moins de risques aussi de dégâts.
Ouais. La place des femmes, pour revenir aux femmes, est-ce qu'elle a évolué dans cet Olympe des super-héros ces dernières années, Anaïs Bordage?
Oui, complètement. Encore une fois, les super-pouvoirs et les super-héros sont liés à leur temps, à leur époque. Donc on a Superman qui arrive dans les années 30 après la crise économique de 1929. On a Hulk qui arrive pendant la guerre froide et la peur de la bombe. Et en ce moment, on a toutes les problématiques de violence sexiste qui ont complètement explosé cette année avec l'affaire MeToo, mais qui sont là depuis toujours. Et on a de plus en plus d'héroïnes. On a Jessica Jones, on a eu Wonder Woman.
Une parenthèse sur Jessica Jones, une série Netflix en ce moment, je crois. C'est une retraitée des super-héros un peu, non? Elle a renoncé à ses super-pouvoirs.
Voilà, en fait.
Elle essaie d'arrêter, en fait.
Voilà, c'est ça, elle essaie d'arrêter. Alors, elle essaie d'arrêter autre chose aussi. Elle a des petits problèmes d'addiction, en tout cas dans la série. Mais effectivement, elle a du mal à assumer ses pouvoirs. Elle préférait ne pas en avoir. Et donc, elle est un peu torturée.
La question de la dépendance aux super-pouvoirs se pose, en fait.
Oui, complètement. Ouais. Alors, c'est pas une super-héroïne, mais on a Willow dans la série Buffy contre les vampires qui se retrouve confrontée au même problème, qui est une sorcière qui développe de plus en plus de pouvoirs. Et en fait, elle atteint un stade où elle est omnipotente. Elle peut vraiment tout faire, se téléporter, manipuler les gens. Et elle en abuse. Et elle devient complètement accro à ça. Et elle devient méchante. Donc ça, effectivement, c'est un problème, l'addiction du super pouvoir.
Vous auriez peur, Pénélope Bagieu, de devenir accro si on vous confiait un super pouvoir?
Non, mais c'est marrant. Alors, j'ai pas la culture suffisante dans les comics, mais c'est marrant comme les personnages qui deviennent ivres de pouvoir et qui n'ont pas les épaules pour autant de pouvoir, c'est des femmes.
C'est exactement ça.
C'est que, ah là là, ces femmes, dès qu'on leur donne le pouvoir, elles font n'importe quoi. Hein.
D'ailleurs, j'ai lu quelque part que vous aviez refusé un projet qu'on vous avait proposé, un éditeur qui voulait que vous fassiez une BD avec des super-héroïnes qui utilisent leur pouvoir pour,
oh là là,
pour faire les soldes.
C'était pas son idée, c'était son input.
Pour faire les soldes.
Ouais. Ah oui, bon, enfin, si vous voulez faire une autre émission sur le sexisme dans la BD, on peut aussi, mais non, c'était un projet que j'avais avec une amie scénariste. Et on avait très envie de faire un projet de super-héroïne, effectivement. Mmh. Mais c'était pas son idée à l'éditeur, mais on faisait une espèce de petit brainstorming. Il était hyper enthousiaste. Il nous a dit, ah, mais oui, j'imagine très bien, ça pourrait être comme ça, un gang de super-héroïnes. Et puis, elles pourraient, par exemple, utiliser leur pouvoir, voilà, pour toujours trouver leur taille pendant les soldes, pour des trucs comme ça. Donc, autant vous dire que c'est un projet qui ne s'est pas fait. Et
qu'on ne peut
jamais travailler avec cette personne.
S'en est suivi.
Mais, c'est.
Bon. Alors, Xavier Fournier, j'ai évidemment soumis notre question du jour au spécialiste en la matière qui s'appelle Frédéric Sigrist et qui anime l'émission Blockbuster à 11h sur France Inter. Et lui est formel, les meilleurs super-pouvoirs sont ceux de la sorcière rouge. Je ne connaissais pas la sorcière rouge, c'est un personnage de l'univers Marvel apparemment. Vous nous en parlez rapidement ?
Alors, c'est un personnage d'ailleurs qu'on peut voir dans les films Marvel Studios, qui a rejoint les Avengers. C'est une héroïne qui a la particularité de jouer sur les probabilités. C'est-à-dire qu'elle fait un petit geste, c'est la version un peu démente de ma sorcière bien-aimée, c'est-à-dire qu'elle fait un geste, même elle ne sait pas exactement ce qui va se produire, et en gros le type qui l'attaquait disparaît ou se retrouve réduit en briques, et donc voilà, c'est vraiment...
Elle ne sait pas ce que ça va donner.
C'est le pouvoir du chaos, en fait. C'est le pouvoir du chaos.
Et vous êtes d'accord avec Frédéric Sigrist, c'est le meilleur des super-pouvoirs? C'est dur. Hein.
Mais de toute façon, le meilleur, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le meilleur des super-pouvoirs donné à un type qui sait pas s'en servir, vous donnera pas grand-chose. Et quelqu'un qui a de l'ambition avec un pouvoir, ce que j'appelle les pouvoirs furtifs, il est capable de devenir maître du monde en quelques semaines. Donc, c'est finalement le pouvoir de la sorcière rouge, c'est pouvoir se tirer de toutes les situations, puisqu'on a toujours le truc qui correspond.
On n'a pas beaucoup parlé de la télékinésie. Beaucoup d'auditeurs nous écrivent pour en parler. Ça fait rêver tout le monde, l'idée de maîtriser la matière juste en bougeant les mains comme ça. Anaïs Bordage, j'étais effondrée.
Pas du tout.
Pas du tout.
Ça me fait pas du tout rêver.
Je bouge la main et la voiture démarre, quoi.
Bah, déjà, ça me paraît un peu limité. Autant se débrouiller autrement pour, comme je disais, plutôt récupérer la télécommande ou faire bouger les voitures. Je sais pas si c'est très utile. Et puis, moi, c'est peut-être à cause de la représentation qu'on donne de la télékinésie dans la pop culture. Mais en fait, déjà, il saigne tout le temps du nez. Donc, ça tâche.
Voilà.
Voilà. Ça a l'air de prendre beaucoup d'énergie, en fait. Ça a l'air d'être toujours un pouvoir qui est très compliqué à gérer, qui intervient dans des moments de stress et de colère. Donc, déjà, des moments où on n'a pas envie de faire n'importe quoi et d'envoyer tout péter, quoi. Et puis, ça a l'air d'être très douloureux physiquement, les maux de tête. Moi, ça m'emballe pas du tout.
Ce super pouvoir n'a pas été retenu par notre comité de sélection. Ne pensez pas que je vais me lasser de placer du super partout. On est super bien sur France Inter. Il est midi 53 et voici un groupe anglais baptisé The Heavy. Si j'osais, je vous dirais que c'est du lourd.
Bah ouais.
Bien joué. I love.
see where you coming from, but I know just what you running from.
Mes invités ont donc débattu sur les super-pouvoirs et nous ne sommes pas parvenus à un consensus. Il faut dire que ce sujet est vraiment très sensible. J'ai une dernière question à leur poser.
Le débat de midi, Dorothée Barba.
Quand même, je signale ce message de Rio qui nous a écrit sur Twitter. Je me contenterai d'être un Jedi. Oui, voilà, il se contentera de ça. Je pose cette question à tous mes invités dans cette émission. Je voudrais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. On démarre avec vous, Xavier Fournier.
Moi, j'ai changé d'avis sur le fait qu'il y a quelques mois, indépendamment des questions politiques, je me réjouissais de voir une ministre de la Culture qui soit éditrice par rapport à la situation que traversent les auteurs, en général les auteurs de BD en ce moment. Il faut savoir qu'il y en a, je crois, 66% qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et cette question s'éloigne. Apparemment, la question sera d'ailleurs pas traitée par la ministre de la Culture. Et à un moment où il y a le feu à la maison et on regarde les films américains, on parle de blockbusters de manière un peu dédaigneuse en disant c'est les Américains qui nous imposent notre culture. Il serait peut-être temps aussi d'aider les gens en France qui font de la culture et qui sont un peu pris à la gorge. Voilà.
Même question, Anaïs Bordage.
Alors moi, j'ai changé d'avis sur un sujet très lourd qui est la randonnée.
On parle des vrais sujets aujourd'hui. Hein.
Voilà, exactement. Une question essentielle. J'étais pas du tout sportive. Je ne l'ai jamais été. Et pour moi, la randonnée, c'était vraiment tout en bas de la liste des activités qui pouvaient me procurer un quelconque bonheur. Et puis, j'ai eu l'occasion l'année dernière d'aller dans l'ouest des États-Unis et de marcher un petit peu dans des endroits absolument magnifiques. Et je suis complètement convertie. Maintenant, je trouve que la randonnée, c'est super. J'ai acheté mes petites boots et j'ai envie de partir tous les deux mois explorer le monde à randonnée.
Voilà, sans téléportation donc, évidemment.
Malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas.
Même question pour Pénélope Bagieu. Sur quoi avez-vous changé d'avis?
C'est un peu proche de ça. Moi, je pensais que j'étais une archi-citadine qui pourrait jamais quitter Paris et que je mourrais si j'étais à plus de 50 mètres d'une station de métro. Et oui. En fait, spoiler, pas du tout. Et plus ça va, plus en fait, je pense que je me radicalise dans la vie sauvage et que maintenant, ça me dirait bien une cabane au milieu de rien du tout, où je verrais personne à part des écureuils de temps en temps.
Into the wild.
Ouais.
Très bien. Un grand merci à tous les trois. Anaïs Bordage, journaliste à BuzzFeed. Xavier Fournier, auteur notamment de Super-héros, L'envers du costume. Et Pénélope Bagieu, les deux tomes de cette magnifique BD culottée sont disponibles dans un très beau coffret aux éditions Gallimard. Merci à tous.
Merci.
Je vous souhaite évidemment une super journée. Et le débat de midi revient lundi. La France sera championne du monde de foot lundi, mais l'événement aura déjà été largement salué toute la matinée sur France Inter. Et donc, je vous proposerai un tout autre sujet pour notre débat. Débat autour de l'homéopathie. Une tribune signée par 400 professionnels de santé contre les médecines dites alternatives a fait beaucoup de bruit il y a quelques mois. Un texte qui réclamait que l'homéopathie ne soit plus remboursée par la sécurité sociale. Alors on va en discuter sereinement, on va essayer en tout cas, avec un signataire de cette tribune, avec une homéopathe, également médecin généraliste, et avec le docteur Martin Vinclair qui a une position très nuancée sur le sujet. J'attends vos réactions, vos témoignages, que vous soyez adepte ou pas d'ailleurs des petites pilules blanches, des petites granules blanches. Rendez-vous lundi à midi. Tout de suite, la Bourse de Paris.